En quoi Francis Bacon, Léonard de Vinci ou encore Nicolas Poussin peuvent être des inspirations dans notre quotidien?
À force de persévérance, de ténacité et surtout parce qu'ils y croyaient, ils ont changé l'histoire de l'art. Ils ont inventé l'art moderne d'une certaine manière.
Cette semaine, mon invité est Grégoire Jean Monod, conférencier et auteur d'un super livre que je vous conseille qui s'appelle « Leçons d'artiste ». Nous allons voir comment les grands génies de l'art, avec quelques anecdotes, peuvent nous aider à être plus créatifs. Je vous laisse tout de suite avec mon invité.
Je m'appelle Grégoire Jean Monod et aujourd'hui mon métier c'est la conférence. Je passe le plus clair de mon temps dans des séminaires, des conventions d'entreprise pour essayer de parler aux collaborateurs d'histoire de l'art en fait, parce que c'est mon univers. Je ne sais pas si c'est mon expertise, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais en tout cas c'est de là que je viens, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui m'enthousiasme. Et ce que j'essaye de faire, le moins maladroitement possible, c'est de créer des passerelles, des ponts entre le travail des artistes, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, et le quotidien des gens à qui je m'adresse. Quand on est comptable, assureur, commercial ou quoi que ce soit, quel lien on peut avoir avec un Picasso, un Warhol, un Dali, un Monet? Comment on peut s'inspirer de ces gens-là pour essayer de regarder nos métiers un petit peu différemment, pour essayer peut-être d'envisager d'autres pratiques de travail collectif, construire d'autres types de relations avec nos clients. Donc il s'agit toujours d'un jeu d'analogie, partir du storytelling sur l'art, faire de la culture G, mais c'est pas là pour ça, mais c'est aussi intéressant, c'est-à-dire essayer de faire découvrir ou redécouvrir aux gens des choses qu'ils ignorent ou pas d'ailleurs sur les artistes, et après surtout tirer un fil pour poser la question suivante: qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que ça implique pour moi dans mon métier, dans mon quotidien, dans mes relations avec mes collaborateurs? Moi j'ai un parcours un petit peu atypique, un petit peu personnel. J'ai passé pas mal de temps à l'hôpital quand j'étais adolescent. Je m'intéressais pas spécialement à l'histoire de l'art à l'époque, mais j'étais dans un service pour adolescents au Kremlin-Bicêtre où, à cause de ma pathologie, j'étais isolé du monde extérieur. C'est-à-dire que j'avais plus le droit d'avoir des communications avec mes amis, avec ma famille, ni lettres, ni coups de fil, ni visites, ni rien. J'étais enfermé avec les autres patients et avec les soignants. Et il y avait, Dieu merci, une petite bibliothèque dans ce service où les gens, les parents souvent donnaient des bouquins dont ils voulaient plus, etc. Et il y avait quelques bouquins sur l'histoire de l'art, notamment un livre qui est la meilleure porte d'entrée qu'on puisse trouver dans le monde de l'art, qui est l'Histoire de l'art par Gombrich, qui est un grand classique qu'en est, je crois, la 15e édition, mais qui se lit comme un roman. Et je suis tombé là-dedans et ça a été pour moi une révélation. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas cessé d'essayer de me cultiver, d'essayer de comprendre, d'essayer d'explorer des champs artistiques différents. Dans mes sacs de linge sale, je passais des petits mots à ma mère en douce pour lui dire: file-moi des bouquins, envoie-moi des livres, etc. Donc il y avait tout un marché noir. Alors les soignants étaient, j'imagine qu'ils n'étaient pas dupes, mais il y avait comme ça, je me donnais des frissons en faisant passer des livres au marché noir. Et c'est là en fait que j'ai découvert cet univers-là. Et dans l'histoire que je me raconte, en tout cas, j'aime bien penser que ça m'a aidé en fait, et que s'il y a eu une thérapie pour moi, ça a été une thérapie par l'art en fait. Et je suis sorti de là en me disant qu'il fallait que ça fasse partie de ma vie d'une façon ou d'une autre. Je suis pas un bon artiste, je crois pas, je m'en suis pas donné les moyens, en tout cas ça veut rien dire de dire ça, je me suis pas donné les moyens de devenir un artiste à proprement parler, mais j'ai trouvé le moyen de vivre avec ça, en faisant ces conférences justement, alors en faisant d'abord du journalisme en histoire de l'art, parce que j'aime beaucoup écrire, et puis maintenant en faisant des spectacles, ce serait prétentieux de parler de spectacles, mais des conférences qui se veulent un petit peu ludiques, un petit peu sympas, un petit peu légères aussi, où on parle des artistes pour réfléchir sur soi. Moi, je passe mon temps à rencontrer des gens quand je leur parle de créativité ou quand je prononce le mot créativité, qui est un mot dangereux, hein, parce qu'on met un peu tout et rien dans le mot créativité. Chacun y voit sa définition, donc c'est un mot un petit peu fourre-tout et assez galvaudé. Mais très souvent, la réaction des gens qui sont dans des métiers, qui sont des métiers assez classiques, qui sont pas des métiers de création à proprement parler, ils vous disent: non, mais la créativité, moi, c'est pas mon truc. Et puis d'abord, je suis pas payé pour être créatif, hein, je suis là pour être efficace, pour être performant, pour atteindre mes objectifs. Et puis la créativité, je laisse ça à d'autres. Hein. On a des divisions dans les entreprises qui sont dédiées à l'innovation, et puis c'est à eux d'être créatifs. Ou des marketing, etc. Et puis eux, ils ont leur créativité, mais moi, je suis pas là pour ça. La vérité, c'est que on le sait aujourd'hui, la créativité, c'est parmi les soft skills les plus importants probablement dans le siècle qui vient, parce qu'on sait qu'il va y avoir des changements radicaux qui vont devoir s'opérer, et que si on veut pas subir le changement, il faut pouvoir se l'approprier, il faut pouvoir le faire sien, donc il faut être force de proposition, il faut avoir des idées. Et si moi je devais donner une une définition de la créativité, aussi limitante et approximative soit-elle, ce serait tout simplement notre capacité à imaginer des voies, des pistes, des chemins qui n'ont jusqu'à maintenant pas été imaginés. Et ça peut prendre n'importe quelle forme en fait. Ça peut concerner les idées, ça peut concerner les produits, ça peut concerner les process, et on se rend compte en fait que dans n'importe quel type d'organisation, la créativité est utile, parce que n'importe quel type d'organisation aujourd'hui est appelé à changer. Quand je parle à des comptables, et que bien sûr les comptables par exemple sont challengés dans l'exercice de leur métier par des logiciels de plus en plus intuitifs qui permettent bientôt de faire leur boulot de comptable, c'est-à-dire de remplir des cases avec des chiffres, leur valeur ajoutée elle se déplace vers la relation, le conseil, la relation au client. Donc là, il faut faire preuve de créativité pour réinventer leur métier. C'est qu'un exemple, les commerciaux, bien sûr, aujourd'hui, là, pendant le Covid, parler à des visiteurs médicaux qui vous disent qu'ils n'ont plus accès à leurs clients aujourd'hui, ils ne peuvent plus aller les voir, donc ils doivent solliciter des visios, on sait à quel point c'est pesant, la visio, on en a tous marre. Eux aussi, ils doivent se réinventer. Donc, ce mot de réinventer, il n'est pas idiot, il n'est pas absurde, même si lui aussi, il est un peu galvaudé, ça veut dire, je vais challenger un peu mes habitudes, tout ce que j'ai appris, et essayer d'entrouvrir des portes que personne n'a pensé, auxquelles moi j'ai pas pensé, et essayer de voir si je pourrais pas m'enfiltrer par là et mettre en place de nouvelles pratiques. Donc oui, les artistes, sur ce plan-là, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, parce que tous les artistes, c'est paradoxal ce que je vais dire, mais tous les artistes, je crois, n'ont pas été très créatifs forcément. Certains étaient juste de très bons techniciens, de très bons praticiens, parce qu'ils avaient appris des choses à l'académie ou ailleurs, et puis ils faisaient les choses telles qu'on leur a enseignées. Mais ceux-là, on s'en souvient pas. C'est pas ceux-là dont on parle. Ceux dont on parle aujourd'hui, c'est ceux qui ont créé des ruptures. C'est les Picasso, c'est les Monet, c'est les Giotto, c'est les Raphaël, c'est les autres, ceux qui ont apporté quelque chose de nouveau. Et par définition, s'ils ont apporté quelque chose de nouveau, c'est qu'ils ont su, d'une manière ou d'une autre, bouleverser un peu l'ordre établi et challenger les pratiques qui étaient en vigueur à l'époque. Donc, l'idée, c'est observons comment ils s'y sont pris et puis essayons d'en tirer des leçons. L'exemple dont je me sers toujours pour parler de créativité et pour essayer de montrer à quel point en fait c'est pas magique la créativité, c'est l'exemple de Warhol. Il est dans le livre. Warhol peint le portrait de Marilyn Monroe, son premier portrait de Marilyn Monroe. Il y en a eu beaucoup après, mais le premier portrait, c'est un tout petit visage de Marilyn, qui est d'ailleurs une photographie de Marilyn du film Niagara, une photo promotionnelle qu'il a collée au milieu du tableau sur un grand fond doré. Ça s'appelle Gold Marilyn. Et c'est ce tableau-là qui, entre autres, mais ce tableau-là a vraiment contribué à le rendre célèbre au début des années 60. Et quand on s'interroge sur la genèse de ce tableau, on se rend compte déjà qu'il date d'après la mort de Marilyn, juste après, que c'est en quelque sorte un hommage, avec beaucoup de guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Mais surtout qu'il a fait ça comme ça pour une raison particulière. C'est que lui, il était slovaque d'origine, il a grandi à Pittsburgh, et avec ses parents, il fréquentait une église qui était une église catholique dite byzantine. Il y a une grande église byzantine à Pittsburgh. Et ce type d'église, depuis le Moyen-Âge, entretient le culte des icônes sacrées sur fond doré. Et Warhol était habitué à ces icônes sur fond doré comme ça. Et à la mort de Marilyn, donc des années plus tard, en 62, il y a un tel battage médiatique, une telle émotion populaire à la mort de cette actrice, en fait, que Warhol se dit, mais en fait, c'est devenu un culte, il y a un culte de Marilyn Monroe. Et la société qui est en train de naître avec la société de consommation, c'est aussi une société de consommation de loisirs, de divertissement, le cinéma, qui prend une place prépondérante dans notre quotidien, plus encore que la religion, peut-être même que le cinéma et toutes les vedettes du show business ont remplacé la religion. Donc ce qu'il fait en peignant Marilyn sur un fond doré, c'est tout simplement, je fais de Marilyn un personnage sacré en la représentant comme les icônes sacrées byzantines de mon enfance. Il juxtapose, en fait, il associe deux images qui existaient déjà, une icône religieuse et une photo de cinéma, et il n'en fait qu'une seule pour créer une image totalement nouvelle qui a un sens nouveau et qui a porté tout ce qu'on appelle le pop art. Donc, en fait, cette idée, cette créativité dont a fait preuve Warhol n'a consisté qu'à associer deux idées déjà existantes. Et ça, il me semble que c'est un très bon exemple pour faire comprendre aux gens que la créativité, c'est pas faire sortir un truc d'un chapeau. La créativité, c'est jouer avec des associations d'idées. C'est aller chercher des concepts qui existent déjà à droite, à gauche, les mélanger, les fusionner entre eux et faire naître quelque chose d'original. Si vous réfléchissez bien, tous les concepts qui sont autour de vous sont nés d'autres concepts parents. Il y a une généalogie, en fait, qu'on pourrait écrire à chaque fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, déjà, que l'innovation est à portée de main, qu'il suffit de regarder autour de soi pour comprendre qu'il y a des choses qui sont intéressantes à associer entre elles, même si ça nous paraît fantaisie. Et puis surtout, ça veut dire que, et c'est là peut-être le plus intéressant, c'est-à-dire que chaque nouvelle idée, chaque nouvelle invention qui rentre dans notre quotidien, n'attend qu'une chose, c'est d'être à son tour associé à d'autres concepts pour générer encore plus de nouveautés. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que l'innovation est exponentielle, en fait. Il y a un livre formidable que je vous conseille à tous qui s'appelle « Where good ideas come from », d'où viennent les bonnes idées. Je crois qu'il n'a pas été traduit en français. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur, Stephen Johnson, de mémoire. Enfin, c'est des noms assez communs en anglais comme ça. Peut-être que je te le donnerai, Alexandre, si tu peux le mettre en lien. Il explique ce que c'est que le champ des possibles immédiats. C'est quoi le champ des possibles immédiats ? C'est tout ce qui peut aujourd'hui être réalisé, être inventé, compte tenu de ce qu'on a à nos dispositions, compte tenu des matières premières qu'on a à notre disposition. Plus on avance dans le temps, plus il y a d'inventions qui sont autour de nous, plus il y a de matières premières, donc plus le champ des possibles immédiats est repoussé, en fait. Et c'est très intéressant, c'est pourquoi un artiste à la Renaissance n'a pas pu inventer le cubisme. Il n'aurait pas pu, parce qu'il n'avait pas les outils à sa disposition pour le faire, tout simplement. Il n'y avait pas la matière première, ça ne pouvait pas cérébralement se passer. Et s'il l'avait fait, il aurait fini sur un bûcher, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Mais il y a comme ça une idée que plus on va inventer, plus on sera en mesure d'inventer. Et plus on sera curieux du monde, plus on aura de la matière première pour créer. Donc ça, évidemment, dans le monde de l'entreprise, ça a beaucoup de sens. C'est très bien d'avoir une hyper-expertise. C'est très bien de travailler avec des pairs, avec des gens qui ont la même expertise que nous, parce qu'on va encore plus loin dans l'expertise. Mais c'est pas comme ça qu'on est créatif. Si on veut être créatif, il faut mélanger les expertises, il faut mélanger les genres, il faut s'intéresser à des choses qui sont extérieures précisément à notre compétence et travailler avec des gens qui pratiquent d'autres métiers peut-être. Donc réussir au maximum à décloisonner tout ça, parce que c'est en allant chercher des idées à droite et à gauche, comme Warhol est allé chercher une icône religieuse et une photo de cinéma, qu'on va pouvoir inventer des concepts originaux.
Et plus on sera curieux du monde, plus on aura de la matière première pour créer.
Moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec Léonard, c'est qu'on a mis ce personnage, et on a raison de le faire d'ailleurs, hein, sur un espèce de piédestal comme ça, en faisant l'archétype du génie humain. C'est-à-dire que Léonard, c'est à la fois le grand artiste, le grand scientifique, et on sait à quel point il a pu être inventif, et avant-gardiste, et visionnaire. Donc c'était quelqu'un d'éminemment intelligent. Mais moi, alors, parce que j'aime bien aussi écorcher un petit peu les icônes et que j'aime bien faire descendre un peu ces artistes-là de leur piédestal, je provoque un petit peu les gens quand je suis en conférence en leur disant, mais attendez, Léonard, sa grande force, c'est pas son intelligence. Oui, il était intelligent, certes, mais surtout, c'est d'avoir été un excellent agrégateur de connaissances, en fait. C'est-à-dire que on se rend compte dans son travail d'artiste et dans son travail de recherche scientifique qu'il passait son temps à observer la nature et à associer entre eux des idées, des concepts, des savoirs qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, parce que précisément il partait dans tous les sens. Ça devait être un bordel innommable dans son cerveau à Léonard. Je fais le parallèle qui est un peu provocateur aussi, mais je dis voilà, la scolarité notamment nous apprend à catégoriser nos idées. Et c'est une bonne chose, parce qu'une partie de l'intelligence humaine, faut pas cracher là-dessus, hein. Voilà, on est humain et on est intelligent parce qu'on arrive à catégoriser. Et à chaque type de problème, un type de solution, à chaque discipline, des idées appropriées. Mais Léonard n'a pas fait de longues études. Léonard, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, c'était un enfant illégitime, et à cause de ça, il a pas pu s'inscrire à l'université. Je crois aussi qu'il était nul en latin et en grec, mais ça c'est un autre problème. Mais il n'a pas pu aller à l'université. Donc à cause de ça, il a dû arrêter l'école vers 14 ou 15 ans, donc assez tôt en fait. Et il a dû se former lui-même. Et il s'est formé sans structure, et il s'est formé en s'intéressant à tout ce qui pouvait l'intéresser, c'est-à-dire à peu près tout ce qu'il avait autour de lui. Et son génie à lui, c'est d'être passé d'un univers à l'autre, mais sans aucun complexe et sans aucun problème. Quand on regarde ses dessins de botanique, ses dessins d'ingénierie, d'ailleurs il était connu essentiellement pour l'ingénierie militaire, hein. Léonard de Vinci, il faut quand même rappeler que c'était pas en faire un marchand de mort, mais bon, voilà, on faisait quand même à lui pour construire. Et d'ailleurs il y a une lettre qui est surréaliste, qui est écrite à lui, je crois que c'est à Ludovic Sforza, donc duc de Milan, où il écrit en gros c'est une lettre de motivation: j'aimerais bien travailler pour vous, je sais faire ça, 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 et il ne liste que des horreurs, hein, des machines pour tuer, des machines pour détruire, des machines pour faire peur et tout. Et à la fin il dit: et en peinture je me débrouille pas plus mal qu'un autre. Donc c'est dire à quel point dans sa hiérarchie de priorité, c'était avant tout un ingénieur. Mais il avait aussi des connaissances et des compétences en architecture, en musique, en poésie, et en médecine, et en botanique, et en géologie, et en chimie, et en climatologie, en tout ce qu'on veut, parce qu'il regardait tout le temps. Et tout ça, ça se ressent dans son travail de peintre. Donc tout ça pour dire que oui, les slashers, c'est un très bon exemple de gens qui se donnent les moyens d'être créatifs, peut-être de façon sans chercher à tout prix la créativité d'ailleurs, mais parce qu'ils sont aspirés et inspirés par tellement de champs différents qu'ils sentiraient qu'ils passeraient probablement, moi je me prétends pas slasher, hein, j'ai deux trois trucs, mais qui se sentiraient probablement frustrés s'ils menaient leur vie à consacrer leur intelligence et leur curiosité à un seul domaine. Et ça fait des gens qui, forcément, sont davantage capables de créer des passerelles entre des champs de connaissances, entre des modes de réflexion différents. Et ça, ça a de la valeur. Alors, on m'a dit un jour, au sortir d'une conférence où je tenais ces propos-là, on m'a dit un jour, oui, mais ça, ça valait du temps de Léonard de Vinci, mais aujourd'hui, ce serait plus possible, parce qu'aujourd'hui, on est dans une science dure, et on a atteint un niveau d'expertise et de connaissance de certains domaines qu'il faut s'y consacrer toute une vie pour être performant. Si vous dites à un type qui est en train de concevoir des procédés de nanochirurgie cardiaque qu'il ferait bien d'aller se taper un football parce que ça lui fera du bien au cerveau et qu'il pourra faire des liens avec son métier, il vous dira, j'ai pas que ça à faire, parce qu'il faut aller au fond des choses, et c'est vrai. Donc probablement que ce qui fait la richesse du monde, c'est d'avoir effectivement des hyper-experts d'un côté, et des gens qui butinent un petit peu partout, quitte à rester un petit peu en surface, c'est pas grave, mais qui vont ouvrir des pistes, en fait, justement en créant des passerelles comme ça entre ces différents univers.
Et son génie à lui, c'est d'être passé d'un univers à l'autre, mais sans aucun complexe et sans aucun problème.
On sait, Matisse, il faisait ses dessins à l'encre de Chine, qui sont très minimalistes, mais extrêmement, voilà, chaque ligne est bien à sa place, chaque courbe est parfaite, etc. Il s'est inspiré de la calligraphie japonaise, hein, c'était ça, hein, c'était, on réfléchit, on conceptualise, on visualise le truc, après, boum, on passe à l'action, et l'action en elle-même, ça dure très peu de temps, en fait. Et bien sûr, ça a de la valeur. Mais on sait aussi tous que c'est plus facile de parfaire quelque chose que de partir de rien. Et Bacon partait de ce principe-là, c'est-à-dire que Bacon il partait de la tâche comme accident, en fait, la tâche. Il faisait une tâche sur une toile parce que ça lui faisait quelque chose. C'était pas abouti, bien sûr, c'était pas ça son tableau, mais c'était un point de départ. Et très souvent dans ces tableaux finaux, on ne retrouve pas la tâche d'origine, mais c'est pas grave. Faire quelque chose, je fais quelque chose, je vois ce que ça donne. C'est satisfaisant, c'est pas satisfaisant, et ben je corrige et j'avance dessus. Construire sur quelque chose d'existant, c'est toujours beaucoup plus facile que de partir de la page blanche. C'est le fameux syndrome de la page blanche ou de la toile blanche si on est peintre. Si on attend d'avoir une solution parfaite, efficace, mais intellectuellement tout à fait satisfaisante pour agir, on n'agira jamais, ou presque jamais. Si en revanche, dès qu'on a une idée, on essaye d'en faire quelque chose, on met le doigt dans l'engrenage, et puis ce sera décevant ou pas, mais c'est pas grave, on avancera avec ça, et on corrigera petit à petit, on avancera. Je pense que c'est plus facile pour beaucoup d'entre nous, en tout cas ça l'est pour moi, et ça l'était visiblement pour Bacon, qui vivait, lui, au milieu d'un atelier. Alors les photos sont surréalistes parce qu'il était tellement spectaculaire, son atelier, qu'ils l'ont reconstitué à l'identique à Dublin, d'où il est originaire, mais son atelier à Londres, c'était un foutoir pas possible, il le disait lui-même, hein, c'était un taudis. Il y a une interview très drôle que vous trouvez sur internet d'un journaliste anglais qui visite son atelier, le type est, il regarde partout mais horrifié, et puis lui il dit oui je sais c'est un taudis mais je m'y plais. Pourquoi? Parce que il laissait plein de choses traîner, partout, des vieux pinceaux, des cartons éventrés, des vieux papiers, des vieux articles de journaux, et puis des vieilles photos qui étaient accrochées partout, tout simplement parce que pour lui vivre dans cet environnement-là, c'était avoir à sa disposition, sous ses yeux, sans qu'il allait chercher, des sources d'inspiration potentielles. Et très souvent, on retrouve certaines des photos qui étaient affichées dans son atelier, on les retrouve dans ses tableaux, transformés bien sûr, mais on retrouve les traces, on retrouve les sources en fait. Donc il y avait cette idée que il faut que je parte de quelque chose, que ce soit des choses que j'ai sous les yeux là, à disposition, parce que ça s'impose à moi aujourd'hui, alors que ça fait 3 ans que je passe devant sans y prêter attention, ou alors parce que j'ai produit quelque chose qui est juste un début, une amorce, une esquisse, ouais, c'est une amorce. Et puis cette amorce, eh ben, je vais la transformer jusqu'à ce que j'arrive à créer quelque chose qui soit satisfaisant pour moi. La performance artistique, c'est un mot qui a du sens, hein. En art, la performance, c'est un espèce de petit spectacle comme ça où l'artiste se met en scène et souvent joue avec son propre corps. Mais on m'a dit, non, mais on parle de performance au sens business du terme, hein, nous, dans TEDx, il ne s'agit pas un truc sur les artistes pour les artistes. Hein, et en fait, j'ai réalisé que le mot performance était peut-être le seul mot qui, dans cette acception-là, n'existait pas dans le monde de l'art, en fait. On ne dit pas d'un artiste qu'il est performant. Vous avez déjà lu quelque part que Velázquez ou Delacroix avaient été performants, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce que c'est, effectivement, la performance pour un artiste? Qu'est-ce que c'est même le succès pour un artiste? Bah, ça dépend des artistes, déjà. Il y en a qui voulaient gagner des sous, et qui l'ont fait, et tant mieux pour eux. Il y en a qui voulaient passer à la postérité, qui l'ont fait, tant mieux pour eux. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, finalement, si l'artiste, son but, c'est pas de gagner des milliards d'euros et de voir ses œuvres vendues aux enchères des prix inexorbitants, si son but, c'est pas non plus de passer à la postérité forcément, alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il fait courir l'artiste ? C'est une très bonne question, en fait. Et je crois que la réponse, on peut la trouver d'autant plus facilement chez des artistes qui sont à côté de nous, en fait, qui sont les street artists. Parce que le street artiste, c'est précisément celui qui va s'exposer, qui va prendre des risques en plus, hein, parce qu'il risque une amende de, je sais plus, 1 750 euros, je crois, en France, pour la moindre inscription sans autorisation. Et il y va quand même, alors qu'il sait très bien qu'il va rester anonyme, qu'il fait ça illégalement, clandestinement, qu'à quelques exceptions près, les Banksy et les autres, quoique Banksy c'est le mauvais exemple parce qu'il est complètement anonyme, mais les JR et les autres, il va rester anonyme, mais il y va quand même. Et ben ça c'est une super question. Qu'est-ce qui fait que le type il est content de faire ce qu'il fait alors que la gratification elle est complètement hypothétique, voire inexistante ? Et ben je crois que la seule réponse qui soit satisfaisante intellectuellement, c'est de se dire que ce qui fait courir le street artiste, c'est d'abord le plaisir de travailler, donc renouons avec le plaisir de travailler, c'est pas un gros mot de dire qu'on peut prendre du plaisir au travail, mais surtout c'est questionner le sens de ce qu'on fait, quoi. Et là on touche à quelque chose de très important dans l'entreprise, parce que Alexandre, toi qui travailles beaucoup avec le monde de l'entreprise, tu le sais, on parle toujours de quête de sens. C'est quoi le sens dans l'entreprise ? C'est quoi le sens de mon métier ? C'est quoi le sens de mon travail ? Ce qui fait la grande différence entre les artistes, street artistes ou autres, et la plupart des gens qui bossent dans les bureaux aujourd'hui, c'est que l'artiste, il est directement au contact du résultat de son travail. Il travaille sur sa toile, il a sa toile, il peut la toucher, elle est palpable, elle est là. Et puis l'émotion des gens qui voient sa toile, il la constate aussi. La plupart des métiers aujourd'hui, on fait partie d'un maillon d'une très grande chaîne et le résultat de ce travail nous dépasse largement et finalement on perd le contact avec la finalité du truc, on ne sait plus trop à quoi ça sert et ça donne tous les fameux bullshit jobs dont on parle, etc. et qui sont très préjudiciables pour les gens qui les pratiquent, qui ne sont pas heureux tout simplement. Donc peut-être que le succès, pour en revenir à ta question, peut-être que le succès pour un artiste, c'est arriver à une forme de satisfaction et qu'il faut renouer avec ça dans nos métiers en fait. Arriver à se trouver satisfait de ce qu'on fait et arriver à trouver de la fierté dans ce qu'on fait et pouvoir raconter aux gens qu'on aime et aux gens qu'on aime moins ce qu'on fait, pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça apporte au monde en fait. C'est quoi ma contribution à l'équilibre du monde aujourd'hui ? Alors, c'est des grands mots, hein, mais tous à notre manière, à notre mesure et à notre échelle, on peut essayer de formuler une phrase un peu équivalente à celle-là parce que sinon le boulot qu'on fait n'aurait pas de sens et il n'existerait même pas. Donc si on fait un travail, c'est forcément qu'il apporte de la valeur ajoutée. La question c'est quelle est-elle et comment est-ce qu'on peut essayer de l'exprimer de façon la plus motivante possible ?
Quoi ma contribution à l'équilibre du monde aujourd'hui ?
Monet et tous les impressionnistes, au début de leur carrière, c'était rien. Ils étaient nulle part, ils n'étaient pas attendus, c'était pas des personnalités célèbres, c'était pas des personnalités influentes. Et pourtant, à force de persévérance, de ténacité, et surtout parce qu'ils y croyaient, ils ont changé l'histoire de l'art. Ils ont inventé l'art moderne, d'une certaine manière. Donc, c'est pas parce qu'on est anonyme et qu'on n'est pas influent qu'on peut pas changer les choses. Il faut qu'on se donne tous les moyens, en tout cas la conviction, qu'on ait la foi, qu'on se pense capable soi-même, que nos actions ont des conséquences et qu'on peut agir dans le bon sens, en tout cas dans le sens d'une société qu'on a envie de voir advenir. Donc, et je dis ça pour moi aussi, hein, parce que c'est très très facile de se dire, bah, de toute façon je peux rien faire, je suis personne, je suis rien, je connais personne, j'ai pas de réseau, et puis mon avis tout le monde s'en fiche. Si Monet s'était dit ça au début de sa carrière, on serait passé à côté de quelque chose quand même, donc c'est parfois difficile, les gens ne nous attendent pas, mais il faut aussi se donner les moyens et se donner les occasions de se faire entendre, de se manifester et puis tenter des choses, tout simplement. Donc c'est très bien de réfléchir, c'est très bien de penser, c'est très bien d'observer, je suis moi-même un grand contemplatif, mais parfois c'est pas mal d'agir non plus.
Je remercie Grégoire d'avoir accepté mon invitation et je vous invite à mettre 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et à en parler autour de vous. À bientôt pour un nouveau numéro d'ASAP.